Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage LD. Alors, pour commencer aujourd'hui, il y a une image, enfin une série d'images absolument fascinantes qui ressort de nos documents.
Les fameuses photos de l'espace, j'imagine.
Exactement. Les photos de la Terre prises par les astronautes de la mission Artemis 2. Quand on regarde notre planète depuis le vide spatial, tout a l'air si calme, tu vois, si unifié.
Ouais, une belle sphère bleue, les nuages, tout ça.
Voilà, presque figé dans une perfection hyper silencieuse. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, dès qu'on zoome, dès qu'on plonge virtuellement vers la surface, vers la surface, on réalise que cette tranquillité, bah, c'est une illusion totale.
Ah bah c'est sûr que de près, c'est pas la même histoire.
Mais vraiment pas. Absolument tout est en pleine mutation. Et souvent, c'est ce qu'on va voir au bord de la rupture.
C'est une métaphore parfaite pour comprendre l'architecture du monde actuel. De loin, les grandes structures, qu'elles soient étatiques ou économiques, elles semblent stables, intouchables. Mais dès qu'on s'approche au niveau microscopique, on perçoit toutes les frictions extrêmes, les réajustements constants, les grincements, quoi.
C'est exactement ça. On aime penser que nos systèmes du quotidien sont immuables parce qu'ils sont massifs, mais en fait, la réalité est beaucoup plus vulnérable.
Et organique, ouais.
Et c'est précisément ce qu'on va disséquer aujourd'hui pour notre auditoire. Notre exploration repose sur un numéro hyper riche du magazine iWeek, le numéro 124 d'avril 2026. L'idée de notre mission d'aujourd'hui, c'est de relier les points.
Relier les points entre des trucs qui n'ont rien à voir en apparence.
Voilà, on passe d'un chantier budgétaire monumental au Maroc à des angoisses super intimes liées à la famille ou à nos données médicales. Et on finit carrément sur des ondes de choc géopolitiques au Moyen-Orient. Quel est le vrai fil conducteur entre tout ça, à ton avis?
Eh bien, si on regarde la mécanique sous-jacente, le point commun, c'est vraiment cette notion de point de rupture et d'adaptation forcée.
D'accord.
Que ce soit, par exemple, la chaîne d'approvisionnement en gaz, les bases de données invisibles qui gèrent notre santé, ou même les routes maritimes mondiales. Partout, on observe comment des sociétés réagissent quand leurs infrastructures sont soumises à une pression, inédite.
Alors, commençons par ce qui est lourd, palpable. Les infrastructures physiques. Les rapports de ce mois-ci détaillent le chantier colossal lancé par le Maroc pour corriger ce qu'on appelle historiquement le développement à deux vitesses.
Le décalage entre les métropoles et les régions enclavées, oui.
C'est ça. Et les chiffres donnent le vertige. On parle d'un plan de, écoute bien, 210 milliards de dirhams.
Sur 8 ans.
Ouais, c'est massif. Pour le développement territorial intégré. Et rien que pour l'année 2026, Nizar Baraka, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, annonce une injection de 73 milliards de dirhams, juste pour les marchés du BTP.
Ce qui est fascinant ici, au-delà de la somme qui est énorme évidemment, c'est vraiment le changement de logiciel, en fait, dans la façon de dépenser cet argent.
Comment ça?
Une planification par le haut. En gros, la capitale décide de ce qui est bon pour les provinces. Mais là, on passe à une ingénierie de l'écoute des besoins locaux. C'est une gouvernance à 3 niveaux.
Local, régional, national.
Exactement. L'échelon local identifie l'urgence sur le terrain, le régional harmonise et le national valide des finances. C'est le passage d'une régionalisation de l'intention à une régionalisation de l'action.
D'ailleurs, pour que ça fonctionne, il y a un changement administratif majeur qui est mentionné, le remplacement des fameuses AREP, les agences régionales d'exécution des projets, par des sociétés anonymes.
Oui, un détail qui a l'air super bureaucratique comme ça, mais...
Change tout en fait. Moi, l'analogie qui me vient, c'est comme si tu engageais un entrepreneur privé hyper agile au lieu d'un énorme comité bureaucratique pour rénover une maison dans laquelle tu vis déjà.
Ah, c'est une très bonne comparaison. On dote les régions de leurs propres réflexes. Ces nouvelles sociétés anonymes, elles auront des obligations de rentabilité, des délais à respecter, des comptes à rendre. On veut l'efficacité du privé avec un mandat public.
Et d'ailleurs, quand on regarde la répartition de ces 73 milliards de dirhams cette année, ça raconte une histoire très claire. 18,3 milliards de dirhams sont dédiés exclusivement à l'eau et à la météorologie.
C'est énorme.
36 petits barrages et 850 forages programmés. L'eau, c'est clairement plus juste un dossier technique là.
Ah non, plus du tout. L'eau est devenue la définition même de la souveraineté. L'eau, c'est la survie. Un État qui ne maîtrise pas son accès à l'eau, il peut s'effondrer économiquement en une saison de sécheresse, quoi.
Bien sûr.
Ces barrages, ces forages, C'est la condition préalable pour que tout le reste puisse exister.
Et ça produit des résultats. Les sources montrent que l'aviation civile est passée de 67 à 87% de conformité sécuritaire. Pour le littoral, c'est plus de 95% des eaux de baignade aux normes.
De très bons chiffres macroéconomiques, oui.
Mais, parce qu'il y a un mais, le contraste est saisissant quand on redescend au niveau de la rue. Les microsystèmes du quotidien, ils grincent de partout.
C'est toujours le grand écart entre la macro et la microéconomie. Les grands équilibres ont l'air sains, mais les acteurs de tous les jours étouffent.
Prenons un exemple hyper concret du rapport Adosh, la bonbonne de gaz butane. C'est quand même la base pour des millions de foyers. Eh bien, on observe qu'une grève de 48 heures, les 21 et 22 avril, a paralysé la distribution.
À cause des coûts qui explosent ?
Voilà. Les distributeurs opèrent à perte, leurs marges sont figées depuis 10 ans, alors que le coût du gasoil a flambé. Et 60% de ces distributeurs n'ont aucun filet de sécurité.
C'est l'illustration parfaite du point de rupture. L'État subventionne le gaz pour protéger le citoyen, ce qui est très bien pour la paix sociale.
Oui.
Mais la logistique derrière, le transport, se prend l'inflation en pleine figure. L'équation devient impossible pour le petit livreur.
Et là, moi, je pose la question un peu critique. L'État ne fait-il pas que transférer la fragilité ? La subvention protège le citoyen, oui, mais en figeant les marges, on ne crée pas une bombe à retardement en logistique. Si les camions ne roulent plus, la bonbonne, elle n'arrive plus de toute façon.
C'est l'effet pervers classique du contrôle des prix. Tu bloques le tarif final, mais tu asphyxies ceux qui font tourner le système. Tu transfères la précarité. Et d'ailleurs, ce type de friction, c'est pas isolé, hein.
Non, clairement pas. Les documents listent plein de tensions. Le rejet d'un accord par le syndicat de l'enseignement supérieur et toute la bascule technologique qui bouscule tout.
Ah, la technologie.
La fin des tampons sur les passeports Schengen qui passent à la biométrie complète, l'alliance alfilerie cache avec les pharmaciens pour digitaliser les paiements. Mais le pire, c'est la vulnérabilité de nos données.
L'attaque sur la CNOPS, oui.
Le piratage de la CNOPS, le groupe Jabarout aurait volé des millions de données médicales et personnelles. C'est un choc psychologique énorme quand ça touche à la santé.
En fait, tout ça converge vers un seul truc. La crise de la confiance, la crise du contrat social. Historiquement, l'État garantit l'énergie, la santé, l'éducation. Mais avec la transition numérique rapide, ces garanties vacillent.
Même la famille vacille. Les chiffres du HCP, le Haut Commissariat au Plan, sur l'enquête 2025, montrent une baisse inédite des intentions de mariage. Et une fécondité sous le seuil de renouvellement. Et au niveau mondial, l'UNESCO dit que la culture plafonne à moins de 0,6% du PIB. Tout bouge.
Et quand tous ces piliers vacillent, qu'est-ce qui se passe ? L'anxiété collective explose. Et un corps social anxieux, c'est le terreau parfait pour la désinformation et la panique.
Ce qui explique ce truc dingue avec les taxis. Une rumeur sur WhatsApp parlant de nouvelles règles pour les agréments en juillet 2026. Ça a tellement enflé que le ministère de l'Intérieur a dû publier un démenti officiel.
C'est fou, hein ?
Une simple note vocale qui paralyse presque un secteur. C'est là qu'on voit que l'infrastructure psychologique, elle est aussi vitale que les barrages à des milliards.
Exactement. Et cette guerre de l'information et cette fragilité, c'est pas que national, c'est à l'échelle mondiale.
Ce qui nous amène aux ondes de choc géopolitiques.
La partie la plus sensible de notre décryptage.
Oui. Et je fais une petite pause ici. Pour ceux qui nous écoutent, il est hyper important de préciser qu'on va aborder des zones de conflit complexes. Moyen-Orient, Israël, Palestine, Iran, États-Unis. On va le faire avec une neutralité absolue.
Tout à fait. On ne fait que restituer les faits, les déclarations et les bilans donnés par nos sources de manière impartiale, sans aucune prise de parti.
C'est ça. Donc, si on regarde les sources, on voit une trêve de 2 semaines négociée in extremis entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Trêve négociée par le Pakistan, d'ailleurs.
Avec un impact immédiat. Le baril de pétrole qui chute sous les 100 dollars.
Mais le contexte de cette trêve est fou. Ça a été arraché juste avant la fin d'un ultimatum de Donald Trump qui menaçait de frapper des infrastructures civiles iraniennes.
Et ça, ça a provoqué un vrai séisme politique aux États-Unis. 60 législateurs démocrates ont lancé une procédure de destitution en invoquant le 25e amendement.
Oui, l'argument c'est que cibler du civil, ça s'apparente à vouloir commettre un crime de guerre. Mais face à cette pression, l'Iran ne s'est pas juste contenté d'une trêve. Ils ont proposé un plan en 10 points.
C'est la différence entre la tactique et la stratégie.
Comment ça ? Pourquoi compliquer avec un plan de 10 points quand on est sous la menace de frappe imminente ?
Parce qu'une simple trêve, c'est une pause tactique. Tu gèles le front, tu laisses l'autre recharger ses armes. L'Iran ne veut pas de ça. Avec leur plan en 10 points qui inclut la levée des sanctions, ils veulent un accord global. Une victoire structurelle, pas juste un sursis de 15 jours.
Et leur levier pour ça, c'est le détroit d'Ormuz. Et là, on a l'information la plus surréaliste du dossier. L'Iran aurait posé des mines navales dans le détroit, mais ils en auraient perdu la trace.
Oui, perdu la trace.
Non mais attends, on perd pas la trace d'un champ de mines. Est-ce que c'est de l'incompétence ou de la manipulation pure?
En guerre asymétrique, le flou, c'est une arme redoutable. Dire qu'on a perdu les mines, ça crée un blocage psychologique total. T'as même plus besoin de flotte navale pour bloquer le détroit.
L'analogie que je ferais, c'est comme si on cadenassait une porte blindée, tu vois, et qu'on jetait la clé dans des herbes hautes.
Exactement.
Même le propriétaire peut plus entrer. Mais psychologiquement, n'importe quel capitaine de supertanker est tétanisé.
C'est le blocage parfait. Et le commerce occidental panique. Par contre, nos sources montrent que la Chine affiche une résilience incroyable face à ce blocus.
Grâce à leurs réserves stratégiques?
Leurs réserves, oui, et une diplomatie pragmatique avec Téhéran, ce qui leur permet de maintenir leur flux presque normalement.
À côté de cette guerre invisible, la guerre physique au Liban atteint des niveaux horribles. 100 frappes israéliennes en 10 minutes. Le bilan de la défense civile libanaise fait état de 254 morts.
C'est une saturation totale.
Et il y a cette rumeur glaçante, non vérifiée, je précise, qui dit que ces frappes auraient été ciblées via l'interception de données d'une réunion sur l'application Zoom.
Vrai ou faux, cette rumeur prouve une chose. Dans nos têtes, la frontière entre l'outil de télétravail civil et le renseignement militaire n'existe plus.
L'infrastructure numérique est un champ de bataille direct.
Exactement.
Et ça s'étend aux réseaux sociaux. Sur Instagram, on a vu une passe d'armes à diplomatique. La Knesset a voté une loi avec 62 voix pour la peine de mort des auteurs d'attaques terroristes palestiniens. Et suite à ça, le footballeur Hakim Ziyech a publié une critique virulente, ce qui a entraîné une réponse directe du ministre israélien Itamar Ben-Gvir, l'accusant d'antisémitisme.
C'est ce que j'appelle la désintermédiation de la géopolitique.
Un bien grand mot, ça veut dire quoi en gros?
Ça veut dire que les diplomates n'ont plus le monopole. Un joueur de foot suivi par des millions de personnes peut ouvrir un front direct avec un ministre en exercice depuis son smartphone. Ça explose toutes les règles diplomatiques classiques.
Et en parlant d'alliances qui bougent, en Afrique aussi, on a des secousses tectoniques. Le Mali qui retire officiellement sa reconnaissance de la RASD pour soutenir le plan d'autonomie marocain.
C'est symptomatique du retour au pragmatisme.
Fini l'idéologie.
Voilà. Dans un monde hyper instable, un pays comme le Mali cherche des partenaires qui offrent des vraies solutions, stabilité, infrastructure, coopération sécuritaire. On redessine la carte du Sahel, littéralement.
Ouais, bah dis donc, on a fait un sacré voyage. Si on synthétise pour notre auditoire, on est parti des 73 milliards injectés dans le béton au Maroc, on est passé par les données de santé évaporées et on a fini sur les mines invisibles du détroit d'Ormuz.
C'est dense, oui. Mais ça prouve une chose essentielle. Comprendre l'actualité, c'est pas juste lister des crises. C'est vraiment observer comment nos systèmes familiaux, économiques, mondiaux cherchent désespérément un nouvel équilibre face à ces fameuses pressions.
Ouais. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on laisse ceux qui nous écoutent avec une dernière pensée. On a vu qu'un État dépense des milliards pour des infrastructures physiques massives.
Le béton, les routes, l'eau.
Et pourtant, une simple note vocale sur WhatsApp peut paralyser le secteur des taxis. L'idée même de mines introuvables peut geler le commerce mondial du pétrole. Alors au final, la véritable infrastructure la plus puissante et la plus vulnérable de notre siècle...
C'est pas nos barrages.
Non. C'est pas nos barrages, ni nos réseaux électriques. Ne serait-ce pas, en fin de compte, notre psychologie collective et notre capacité à simplement se faire confiance? C'est une question qui mérite réflexion.
Je crois que la réponse est dans la question.
Merci beaucoup pour ces analyses. À très bientôt pour un prochain décryptage.